Radio Okapi.
Le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, fait arrêter et déférer devant le parquet quelques gestionnaires du fonds destiné aux victimes de la guerre de 6 jours de Kisangani. Les membres du conseil d'administration des Frivao, selon le ministre, sont en train de répondre de la gestion de ce fonds devant la justice à Kisangani. La journée consacrée aux parents morts et vivants est diversement célébrée dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Si les uns s'empressent d'aller dans les différents cimetières, d'autres estiment que tout peut se faire à tout moment sans attendre un jour particulier. Dans ce journal, un reportage de Jean Gandou depuis Lubumbashi. Dominique Kasimba est notre invité. Il est le coordonnateur de l'association des cultivateurs de cacao de la province de la Tchopo. Bonjour à tous. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, fait arrêter et déférer devant le parquet quelques gestionnaires du fonds destiné aux victimes de la guerre de 6 jours de Kisangani. Sur place à Kisangani, pour commémorer les victimes, le ministre veut faire accélérer les enquêtes sur ce dossier pour lequel il avait déjà annoncé des poursuites contre les mandataires du fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC Frivao, après le rapport qu'il avait de l'IGF à ce sujet. Les membres du conseil d'administration, dont un prêtre catholique, selon le ministre, sont en train de répondre de la gestion de ce fonds devant la justice à Kisangani. On écoute une des victimes réagir aux poursuites ainsi engagées par le ministre de la Justice. Elle est jointe depuis Kisangani par Jeff Ngoy.
Moi, c'est ingénieur Jay Amisi Atonga, victime de guerre de 6 jours ici à Kisangani, province de la Tchopo, et vice-coordinateur de la nouvelle société civile congolaise Tchopo. Notre réaction est de satisfaction d'avoir appris l'arrestation de présumés détourneurs des fonds destinés à l'indemnisation de guerre de 6 jours. Nous recommandons à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, l'installation d'une nouvelle coordination qui fera la suite, et ainsi que la poursuite des enquêtes afin de tirer au clair les dossiers.
Dans la province de la Tchopo, la messe programmée cet avant-midi à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire à Kisangani n'a pas eu lieu comme initialement prévu par le gouvernorat de province. Elle a été reportée pour demain vendredi et sera célébrée en présence de la première ministre Judith Suminwa, attendue ce vendredi à Kisangani. Elle va représenter le chef de l'État à la cérémonie commémorative du Gonokos congolais. Cette messe est recommandée par le gouvernement central dans toutes les provinces du pays. Le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe a libéré hier soir le journaliste Joël Kadedanga, qui était arrêté dans le cadre du dossier relatif au concert de l'artiste de gospel Mike Kalambay. Il poursuit son instruction avec l'artiste Aristote Nzuzi, directeur technique de la société Marjabo Gospel. Selon le parquet, le rôle du journaliste dans le concert du 27 juillet s'est limité à la communication et la publicité. Seule la société Marjabo était l'organisatrice du dit concert qui a produit Mike Kalambay. D'après toujours le parquet, Marjabo accepte de prendre en charge les victimes de ce concert, notamment les 9 morts et plusieurs blessés. Notez par ailleurs que le parquet annonce l'arrestation d'une cinquantaine de jeunes, autrement appelés Force du Progrès. Ils sont encore au niveau de la police et d'autres au renseignement militaire à la suite des événements survenus hier sur l'avenue Ouvira, quartier Gelem à Gombe. Un procès en flagrance est prévu sur leur siège de la DGC à Binzaozone, probablement demain vendredi. La journée consacrée aux parents morts et vivants est diversement célébrée dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Si les uns s'empressent à aller dans les différents cimetières pour des travaux d'assainissement, les autres se méfient, estimant que tout peut se faire à tout moment sans attendre nécessairement un jour particulier. Entre-temps, aux alentours des cimetières s'organisent des petites activités commerciales avec la vente de certains matériaux de construction. Un reportage de Jean Gallo.
Depuis le matin, plusieurs personnes, outils à la main, se dirigent vers les différents cimetières de la ville. Objectif, donner un coup de balai ou un coup de brosse sur les tombes et même les alentours, pourquoi pas poser les pierres tombales. Cette journée permet aussi à d'autres de se recueillir sur les dernières demeures de ceux qui leur étaient chers. D'autres encore, contre toute attente, constatent la profanation des tombes où les croix et autres carreaux sont enlevés. À côté des cimetières, se sont aussi créées des activités commerciales où sable, ciment, briques, carreaux, gerbes des fleurs, voire l'eau se vendent un peu plus cher que d'habitude. Un sac de ciment se négocie jusqu'à 30 000 francs congolais au lieu de 23 voire 25 000 francs congolais. Et pour la circonstance, au cimetière des Sapins, un bidon d'eau de 20 litres se vend à 1 000 francs, alors qu'en temps normal, à certains endroits, 4 bidons de 20 litres chacun s'achètent à 1 000 francs congolais. Si les cimetières sont pris d'assaut en ce 1er août, d'autres le choix pour éviter les encombrements, c'était résolu de faire le nécessaire la veille. D'autres encore, pour des raisons de conviction religieuse, s'abstiennent, estimant que ça ne valait pas la peine. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, parmi ceux qui se rendent ce jeudi aux différents cimetières, certains risquent d'être désillusionnés. Si dans la majorité des cimetières privés, tout est fait pour préserver le respect dû aux morts, ce n'est pas nécessairement le cas dans plusieurs autres cimetières dits publics. Il y a souvent plusieurs problèmes, notamment le manque d'entretien, la profanation des tombes, les érosions et autres inondations par endroits en saison de pluie. Certains sites sont même spoliés. C'est le cas du cimetière de Kinsuka dans la commune de Mongafula. Des maisons en tôle y poussent tous les jours comme des champignons. Des installations hygiéniques qui y sont érigées ont des tombes de foie comme fosses septiques. John Chibwabwa s'y est rendu. Il nous décrit la situation dans ce reportage.
La cohabitation entre les morts et les vivants est devenue possible au cimetière de Kinsuka. Pire, le vivant y gagne du terrain chaque jour, au point que ce cimetière héberge aujourd'hui plusieurs familles. L'une des habitants de ce site explique comment elle y est arrivée.
Le chef coutumier avait vendu cette parcelle à une dame. Cette tombe-là que vous voyez est celui de son père. Elle avait acheté cet espace pour qu'on y enterre les membres de sa famille. C'est elle qui a construit ses maisons en tôle. Elle m'a logé ici pour surveiller sa concession.
Ces maisons se construisent pendant la nuit. La plupart appartiennent à certains hauts gradés de l'armée, nous dit Paul Bangala, percepteur dans ces cimetières.
Depuis que je suis ici, il n'y a pas d'enterrement. Les gens viennent construire des maisons en tôle et ces dernières appartiennent aux généraux et leurs femmes. Ils disent avoir reçu l'autorisation de la police. Nous avons fait rapport à notre hiérarchie. La solution n'est pas toujours trouvée.
Notez qu'à Kinshasa, la plupart des cimetières publics sont presque abandonnés. Ce 1er août risque donc d'être un nouveau jour de deuil pour de nombreuses familles dont l'incapacité de retrouver les tombes de leurs proches.
Dans le même temps, au Sud Kivu, Radio Kapi a visité quelques familles où les enfants vivent aux côtés de leurs parents. D'autres sont des orphelins. Ces derniers regrettent d'avoir perdu assez tôt leurs parents, avec toutes les conséquences qui en découlent. Reportage de Bukavu de Rachel Kessembangu.
Qui dit 1er août dit parents. Pour certains enfants, jeunes rencontrés et qui se sont exprimés à notre micro, avoir des parents qui se sacrifient pour le bien-être des enfants est une grâce et une motivation. C'est le cas de Bénédicte.
Je peux dire que mes parents ont beaucoup sacrifié pour que je sois là où je suis actuellement. Avoir des parents responsables, c'est vraiment quelque chose de particulier, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des parents aussi comme moi, mais qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas su au fait assumer, être à la hauteur des responsabilités qui leur incombent.
Cependant, d'autres enfants ayant perdu leurs parents ne savent comment s'y prendre en ce jour. Fête ou deuil, ils se posent la question. Marie Moiti, jeune fille de son état, nous en parle.
Pour nous qui avons perdu des parents, c'est difficile de voir cette fête se passer juste comme ça sous nos yeux. On se demande, est-ce que nous devons vraiment écrire sur nos statuts joyeuse fête des parents, ou soit écrire RIP, écrire un texte qui prouve que nous sommes tristes parce que notre papa, notre maman n'est plus en vie. Ça fait en tout cas mal d'avoir cette partie qui manque.
Toutefois, mort ou vivant, chaque parent mérite d'être célébré pour avoir donné la vie et s'être sacrifié. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Éduquer et qualifier la femme africaine du 21e siècle, c'est le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la femme africaine. Journée célébrée hier 31 juillet, occasion pour les femmes de réfléchir sur l'apport de cette dernière dans la société. À cette occasion, le ministère du Genre, Famille et Enfants a organisé plusieurs activités en l'honneur de la femme africaine, dont un dîner à l'hôtel Rotana à Kinshasa. Suivez ce reportage d'Étienne Lissumbo.
Oh, toi,
tout commence avec cet hymne de Kamaralei dédié à la femme. Il est chanté par les femmes de toutes les couches, quelques membres du gouvernement et le représentant des Nations Unies présent à cette cérémonie commémorative. Vient ensuite le moment pour la ministre du Genre d'encourager l'engagement de la femme congolaise dans la marche du pays, Léonie Kandolo.
La femme africaine a été celle qui a permis que le Congo soit le pays, le premier pays d'Afrique à inscrire la parité dans sa constitution. Donc, ne pensons pas que les femmes africaines sont des femmes faibles.
Alda Chantitoulouka, conseillère en matière de coopération et partenariat du ministère du Genre, interpelle quant à la femme des œuvres qui, d'après elle, doit se mettre au travail pour sa survie.
Celles qui sont assises, qui attendent qu'on vienne les soutenir, ça ne peut pas arriver. Donc elles doivent se lever et avancer.
Adama Moussa, représentant de l'ONU Femmes, martèle sur l'investissement dans l'éducation de la femme africaine.
L'éducation des filles constitue un levier important pour lutter contre la pauvreté, améliorer la santé maternelle et infantile et promouvoir l'égalité des sexes.
À la fin de la cérémonie, quelques femmes sont primées pour leur bravoure. C'est le cas de Mama Zouzoua Mbombo pour ses exploits en politique.
La femme du Nord Kivu reste, elle, résiliente en dépit de la situation qui affecte la province. Elle se trouve toujours en première ligne pour la prise en charge de son ménage. Il s'observe cependant que la femme n'est pas toujours autonome économiquement. C'est en tout cas l'évaluation faite hier par les organisations féminines du Nord Kivu à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. La présidente du collectif des associations féminines pour le développement, CAFED, salue la bravoure de la femme qui, malgré les obstacles persistants, essaie toujours de se relever. Isabelle Pendeza demande à cette occasion aux autorités d'accompagner les initiatives féminines dans leur autonomisation économique. Elle est au micro de Denise Loukesso.
La situation de la femme du Nord Kivu reste toujours préoccupante sur les plans économiques, social et sécuritaire. Et dans la pratique, la majorité des femmes de la RDC, et particulièrement celles du Nord Kivu, ne sont pas autonomes et continuent à subir au quotidien toute forme de violence. Aujourd'hui, c'était pour nous un moment d'échange afin que les femmes puissent faire une évaluation depuis que cette journée a été initiée jusqu'à présent, quel a été le rôle de la femme dans le développement de la province mais aussi de la République tout entière. Il y a des défis auxquels les femmes font face, mais je sais aussi que les femmes de la province du Nord Kivu restent résilientes peu importe la situation qui affecte la province. Ces femmes n'ont pas baissé les bras, ce sont ces femmes-là qui sont en train de nourrir beaucoup d'hommes dans leur ménage, ce sont ces femmes qui sont en train de scolariser les enfants, que nos autorités puissent faire de leur mieux pour accompagner les initiatives féminines, mais aussi de travailler beaucoup plus sur la protection des femmes et des jeunes filles pendant cette période où le pays est agressé.
Hier, 31 juillet, journée mondiale des éco-gardes. Dans le parc national des Virunga PNV, près de 800 éco-gardes travaillent dans un engagement inébranlable pour préserver l'une des biodiversités les plus riches et aussi les plus menacées au monde. Ces éco-gardes travaillent dans un contexte sécuritaire délicat. Selon le PNV, environ 200 éco-gardes en service ont perdu la vie au cours de 20 dernières années. À l'occasion de cette célébration, l'ICCN rend hommage à ces hommes et ces femmes pour leur dévouement et leur engagement à protéger ce patrimoine mondial. Au micro de Denise Loukesso, bienvenue Bouende, chargée de communication du PNV, revient sur l'importance de cette journée.
Cette journée est l'occasion de sensibiliser les publics à l'importance de leur travail et reconnaître ainsi les sacrifices que font les éco-gardes pour préserver la nature, pour les biens de l'humanité tout entière. Dans leur mission de surveillance et de la protection des aires protégées, les éco-gardes font malheureusement face à plusieurs défis, parmi lesquels l'instabilité sécuritaire que nous vivons, surtout ici au sud de la province du Nord Kivu, qui est due à la présence de groupes armés et à des conflits prolongés dans la région, qui rend ainsi le travail des éco-gardes extrêmement dangereux. Ils sont souvent la cible d'embuscades et d'attaques. Ces défis ont malheureusement été à la base des situations dramatiques, et au cours de 20 dernières années, près de 200 éco-gardes du parc national de Virunga ont perdu la vie en service et ces pertes tragiques soulignent ainsi les dangers inhérents à la protection de ces sites naturels et rappellent ainsi le courage et le dévouement des éco-gardes qui continuent de travailler malgré les risques qu'ils encourent.
Actualité internationale.
La police nigériane a tiré ce jeudi des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs centaines de manifestants qui se rassemblaient dans la ville de Kano au nord du pays contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie. Selon l'agence France Presse, des manifestants ont tenté d'allumer des feux devant le bureau du gouverneur et la police a répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Des manifestants se sont également rassemblés à Lagos et dans la capitale Abuja. Par ailleurs, 19 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées lors de l'explosion d'une bombe dans un salon de thé d'un village du nord-est du Nigeria où sévit une insurrection djihadiste depuis plus de 14 ans.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, parmi les entreprises visitées par le ministre de l'Agriculture, figure notamment l'association des cultivateurs de cacao. Pourquoi le ministre s'est-il rendu dans cette entreprise? Qu'attendent les membres de cette association du ministre de l'Agriculture? Pour en savoir plus, nous recevons Dominique Kasimba. Il est le coordonnateur de cette association. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Dominique Kasimba, bonjour.
Bonjour, Jacques.
Comment peut-on expliquer cette visite du ministre de l'Agriculture dans votre entreprise?
On a reçu le privilège aujourd'hui d'être visité par le ministère de l'Agriculture à travers le ministre d'État chargé de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Il nous a visité dans le cadre de notre alliance productive.
Parler d'une alliance, c'est quoi cette alliance productive?
L'alliance productive, c'est une union entre une organisation paysanne et une entreprise locale. Donc nous avons l'union des producteurs ou la coopérative des cultivateurs de cacao de la Tchopo qui sont un mariage d'intérêts entre guillemets avec l'entreprise Docas qui est dans la transformation du cacao et la transformation des maïs. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu ce privilège aujourd'hui d'être visité par le ministre.
Quelles sont alors les impressions du ministre au terme de sa visite?
Il nous a encouragé, c'est ce que nous faisons, parce qu'on travaille sur un projet du gouvernement à travers les projets PESFED, les projets de la mise en valeur des zones de forêt dégradées. C'est un projet qui est chapeauté par le ministère de l'Agriculture. Et nous avons fait le projet pilote l'année passée. Comme vous l'avez suivi, tous les projets pilotes qui ont été faits dans ce cadre, notre alliance est productive, donc la coopérative des cultivateurs de cacao de la Tchopo et les établissements d'Ocas se sont qualifiés parce que sur les assignations qui nous ont été soumises de faire 380 hectares, nous en avons fait 415. Donc on a dépassé même ce qui nous a été demandé. Et on est venu nous encourager d'abord par rapport à ce qui a été fait l'année passée.
Que comptez-vous faire au cours de cette année dans le cadre de ces projets PSD?
Cette année, nous projetons de faire autour de... Le ministère nous a confié, en fait, le projet nous a confié 880 hectares, mais nous comptons faire 1000 parce qu'au départ, c'est pour augmenter et booster la production du cacao dans la Tchopo et indirectement la production du cacao au Congo. Alors, on a besoin que le ministère puisse continuer à nous accompagner comme c'est déjà fait.
Dominique Kasimba, quel genre d'appui souhaitez-vous avoir du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Agriculture?
On a besoin tout des formations et surtout aussi de l'amélioration de la qualité des transformations de nos produits parce que nous sommes aussi dans la transformation agricole à travers la semoule de maïs que nous transformons avec le maïs que nous produisons avec le paysan qui nous sont revendis et que nous transformons pour le mettre au marché. Et dans l'entretemps, une partie de notre production du cacao est transformée, mais il faut reconnaître que nous sommes juste au début de la transformation et qu'on a besoin de l'accompagnement du gouvernement congolais à travers le ministère à améliorer cette transformation pour rendre la qualité de notre transformation compétitive au niveau international. C'est ce que nous avons demandé, que le ministère puisse réfléchir comment on peut nous accompagner dans ce cadre-là d'amélioration de la qualité de transformation du cacao, soit par des formations, soit par l'accès au crédit à travers le banque à des taux préférentiels. Ce que nous attendons, nous allons développer ça avec le ministère, avec son équipe.
Comment le ministre a-t-il réagi?
Je pense déjà ils sont dans les processus d'accompagnement parce que les projets que nous faisons, c'est déjà un accompagnement de l'État congolais à travers son ministère, d'abord. Et puis, donc, ce que nous demandons, c'est d'améliorer ou bien d'augmenter les gammes d'accompagnement. Donc, le gamme d'accompagnement que nous demandons, au niveau de la production, nous avons déjà la sérance. Notre coopérative, cette année, va passer de 400 hectares à 1500 hectares, grâce à l'appui du gouvernement, à travers ses partenaires l'AFD, CAFI et Fonared. Mais dans l'entretemps, nous voulons aussi que l'État congolais, le ministère, qui a un bureau d'industrie et de transformation agricole, puisse aussi mettre l'œil sur ce que nous faisons dans la transformation et permettre à son amélioration. Et sur ces points-là, le ministre est d'accord. D'ailleurs, il nous a promis de nous mener en formation des transformations à l'extérieur du pays pour voir ce que les autres font et si nous pouvons aussi, à travers cette connaissance aussi, améliorer notre propre transformation locale.
Dominique Kassiwa, merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal qui arrive à sa fin. Un journal mis en onde par Pierre Diassinois, présenté par Noëlla Luzito, sous la supervision de Pélé Kipela Mondo et dans une coordination de Blaise Shindani Kambala. Merci à vous tous et restez sur les programmes de Radio Capitale.